Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. En République centrafricaine, des dizaines de milliers de personnes sont sans abri, notamment à Bangui, la capitale, après des inondations inédites en 20 ans. C'est ce qu'a annoncé ce mardi la Croix-Rouge centrafricaine, le gouvernement faisant état, lui, d'une grande catastrophe naturelle. Les inondations sont dues à la conjonction de pluies exceptionnelles et incessantes depuis une semaine et la crue décennale de Lubangui et de ses affluents. Le dernier bilan fait état de 28 000 personnes sans abri dans tout le pays, a souligné le pasteur Antoine Mbaobogo, président de la Croix-Rouge centrafricaine. À Bangui, qui compte environ 1 million d'habitants, des quartiers entiers sont transformés en marécages. Selon le porte-parole du gouvernement, Ange-Maxime Kazagui, Lubangui est sorti de son lit et les rivières qui vont s'y jeter ne peuvent plus le faire. D'où un phénomène de débordement intense, a déclaré ce haut responsable. Tous les 10 ans, Lubangui, la principale rivière du pays, connaît une crue majeure. En 1999, les inondations avaient déjà provoqué d'importants dégâts. Cette année, le phénomène est aggravé par des précipitations exceptionnelles en durée et en ampleur pour cette saison. En République démocratique du Congo voisine, la justice militaire a requis lundi la prison à perpétuité contre Frédéric Massoudi Alimassi, alias Coco Di Coco, un chef rebelle poursuivi pour des viols de masse en 2018 dans l'est du pays. La même peine a été demandée contre les prévenus Mouilo Katindi et Samitamba Makese Raphaël. Selon le major Apollinaire Yoma Moukoko, procureur militaire, les milices de Coco Di Coco ont perpétré des exactions contre plus de 300 victimes, dont des femmes et des enfants, dans plusieurs villages des territoires de Mwenga et de Chabunda, dans la province du Sud Kivu, dans l'est du pays. Le procès en cours a été délocalisé dans les villages où ont lieu les exactions. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Maintenant, au Mali, une demi-douzaine d'enseignants qui avaient été enlevés vendredi dernier dans leur école du centre du pays par des djihadistes présumés ont recouvré la liberté. Par ailleurs, la MINUSMA, la mission onusienne sur place, a annoncé qu'un casque bleu togolais a succombé à ses blessures. Les détails avec Irénée Hermann Ungbo.
Dans un communiqué, le gouvernement du Mali informe de la libération effective des enseignants enlevés le 25 octobre lors de l'attaque des établissements scolaires de Korientze par des individus armés. 6 enseignants selon des sources locales, 5 selon le gouvernement malien, ont été enlevés par des assaillants venus nombreux, armés et à moto, jusque dans leur école au nord de Mopti. Ils avaient mis le feu au matériel scolaire dans la cour de l'école. Quelques 920 écoles sont fermées au Mali, dont plus de 2/3 dans le centre du pays. Par ailleurs, un casque bleu togolais blessé le 6 octobre lors d'une attaque de djihadistes présumés a succombé hier à ses blessures. Le porte-parole de la mission de l'ONU, Olivier Salgado, a annoncé la nouvelle sur Twitter, rappelant que le soldat togolais avait été grièvement blessé et évacué vers un hôpital de Dakar.
Toujours concernant la lutte contre les djihadistes, la mort du chef du groupe État islamique Aboubakar al-Baghdadi, annoncée dimanche par le président américain Donald Trump, est considérée comme un coup dur pour l'organisation terroriste qui avait déjà perdu la quasi-totalité du territoire qu'elle avait conquis en 2014. Mais beaucoup estiment que le groupe a toujours une capacité de nuisance. Beaucoup de jeunes Africains étaient partis se battre pour l'État islamique en Irak, en Syrie et en Libye. Que sont devenus ces Africains anciens combattants de Daesh? Idriss Fall a joint le professeur Bakary Sambé, directeur de Timbuktu Institute.
Nous avons fait peu de recherches sur le sud libyen qui, à un moment, était devenu le refuge de ces mouvements-là. Aujourd'hui, il y a une confusion totale sur le nombre, mais aussi sur l'itinéraire. Si on sait que des jeunes Sénégalais, des jeunes Burkinabés, des jeunes Nigériens étaient présents dans ces groupes-là, que sont-ils devenus, c'est une grande question. Mais tout le monde sait que le déploiement de Abu Walid al-Sahraoui avec l'État islamique au Grand Sahara, il forme la mondialisation des idées de l'État islamique et que le projet était bien clair une extension au sud du Sahara, mais aussi dans l'espace sahélien.
Dans l'ouest du Mali, émir du Grand Sahara.
Absolument. Je crois que là où peut-être l'administration américaine pourrait se tromper, c'est que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu une Kalachnikov qui a tué une idéologie. Le plus important, c'est lutter contre les causes structurelles de ce djihadisme et du terrorisme, combattre la bonne gouvernance, combattre les inégalités horizontales, combattre les frustrations, avoir beaucoup plus de justice au niveau international par rapport à certaines causes. Même si al-Baghdadi a été tué, ses idées vont continuer à inspirer des mouvements, et c'est déjà le cas aussi bien pour Boko Haram, aussi bien pour les dissidents de Boko Haram, mais aussi Adnan Abou Walid al-Sahraoui, qui est à la tête de l'État islamique au Grand Sahara.
Le professeur Bakary Sambé, directeur de Timbuktu Institute.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir a qualifié de non-événement la candidature à la présidentielle de 2020 de Guillaume Soro, ancien chef de la rébellion ivoirienne et ex-président de l'Assemblée nationale, ex-premier ministre aussi. Ce qu'on retient de lui, c'est qu'il a été un bon chef rebelle et un mauvais premier ministre, a déclaré lundi Adama Big Togo, le directeur exécutif du RHDP, le parti présidentiel, lors d'une conférence de presse. Ancien allié du président Alassane Ouattara, passé dans l'opposition en début d'année, Guillaume Soro, 47 ans, qui a annoncé sa candidature à la présidence le 18 octobre, est le premier homme politique d'envergure à briguer officiellement la magistrature suprême. En Algérie, troisième jour de la grève illimitée des magistrats, les tribunaux sont à l'arrêt suite à l'appel en ce sens de la part du syndicat national des magistrats. Les grévistes réclament ce qu'ils appellent l'indépendance de la justice et l'annulation de changements d'affectation qui visent la moitié des juges. Plus de détails avec Bagassi Koura.
98% des magistrats étaient en grève hier, après 96% la veille, selon un communiqué du syndicat national des magistrats à l'origine de l'appel à la grève lancé dimanche. Le 24 octobre, le ministère de la Justice a annoncé le changement d'affectation de quelque 3000 magistrats, soit la moitié des effectifs de ce corps. Tous les tribunaux du pays sont totalement paralysés, affirme Sadedine Merzoug, porte-parole du Club des magistrats, un syndicat non enregistré né dans la foulée du mouvement Hirak. La contestation qui a poussé l'ex-président Abdelaziz Bouteflika à la démission le 2 avril. Cette grève est une première en Algérie où la loi interdit aux magistrats de faire la grève. Ce débrayage est susceptible d'entraver les préparatifs du scrutin voulu par le pouvoir le 12 décembre, un scrutin massivement rejeté par la rue.
Afrique du Nord, toujours au Maroc, la police a annoncé lundi qu'une cellule terroriste affiliée au groupe État islamique, qui a été démantelée vendredi dernier, comptait attaquer des sites sensibles en mer et sur le littoral de Casablanca, la grande métropole du pays. Selon les autorités, des équipements de plongée, un zodiac, des cagoules, des armes ainsi que des munitions ont été saisis pendant les perquisitions. Le chef présumé de la cellule était un maître nageur. Actualité américaine pour terminer. Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants votera jeudi pour la première fois en séance plénière sur une résolution qui réaffirme l'enquête en cours sur une éventuelle procédure de destitution du président Donald Trump. La résolution d'impeachment autorise pour la première fois des auditions publiques. Eric Maniraquiza.
Dans le cadre de cette nouvelle étape, la résolution énoncera les droits garantis au président et à sa défense, a précisé la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, dans une lettre à son groupe parlementaire. Qualifiant depuis des semaines cette enquête de chasse aux sorcières, la Maison-Blanche et les Républicains ont vu dans cette annonce l'admission que la procédure n'était pas en règle. Les démocrates, eux, affirment qu'il s'agit d'encadrer une nouvelle phase de cette procédure. L'opposition démocrate cherche depuis fin septembre à établir si le président républicain a abusé de son pouvoir à des fins personnelles quand, selon elle, il a demandé à l'Ukraine d'enquêter sur son rival Joe Biden. Elle mène à huis clos des auditions à la Chambre à majorité démocrate devant les membres républicains et démocrates des commissions chargées de l'enquête. À son terme, la commission judiciaire de la Chambre sera chargée, le cas échéant, de définir et de présenter les chefs de la mise en accusation du président, ou impeachment en anglais. Un vote sera alors organisé en séance plénière. Si l'impeachment est approuvé, le Sénat à majorité républicaine devra organiser le procès de Donald Trump sur son éventuelle destitution.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.